Il y a plus de 20 ans, Pika Édition publiait ses premiers volumes de manga en France. Aujourd'hui, cette maison d'édition compte plus de 1800 titres à son catalogue et continue de nous faire connaître des œuvres rassemblées autour d'une idée, la création et l'inspiration japonaise. Un manga, c'est environ 350 grammes de papier, de dessins, de dialogues, mais c'est surtout un long voyage autour du monde, des auteurs japonais jusqu'à nos mains de passionnés en France. Et pendant ce voyage, des tas de petites mains se relaient pour réussir l'exploit de nous faire découvrir tous ces personnages qu'on va adorer ou adorer détester. Bienvenue dans le Pika Podcast, un nouveau format que la maison d'édition Pika, spécialisée en manga, a choisi pour vous faire vous aussi voyager et retracer le trajet de vos mangas préférés. Je suis Amandine, et je serai votre hôte durant toute cette saison pour lever le voile sur le mystère de l'adaptation ou de la création d'un manga. Nos invités aujourd'hui sont Elisa Amplard et Cathy Fernès. Elisa est directrice marketing et travaille dans l'industrie depuis 10 ans et elle lit des mangas depuis qu'elle a 8 ans. Cathy, quant à elle, est responsable marketing, travaille depuis 22 ans dans le milieu du livre et lit des mangas depuis 29 ans. Bonjour Cathy, bonjour Elisa.
Bonjour Amandine.
Bonjour Amandine.
Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Pika Podcast où on va parler de marketing, car une fois imprimé et traduit, il va falloir faire un petit peu de publicité à nos mangas afin qu'ils puissent trouver leur public. Et ça, c'est le travail de votre section, la section marketing. Et aujourd'hui, nous allons parler de toutes les techniques pour vous faire connaître vos futurs mangas préférés. Est-ce que vous êtes prête à répondre ?
Oui. On est prête.
On commence par la première question habituelle, celle qui va un peu nous expliquer un petit peu plus ce métier. Quel métier justement et quelle responsabilité englobe le marketing lorsqu'on parle de manga ?
Alors, vous allez voir, c'est très très vaste. Quand on parle de marketing, en fait, ça va commencer avant même en fait qu'on choisisse un manga à acquérir. Ça va être le choix d'un manga qu'on souhaite apporter sur le marché. Ça va être la stratégie pour l'acquérir, pour convaincre un éditeur de nous le confier, parce qu'on va lui dire comment on souhaite défendre ton titre sur notre marché. Ça va être ensuite, une fois qu'on l'a acquis, quelle va être la stratégie qu'on va mettre en place effectivement pour aller le présenter au public. Ça va être les relations avec l'équipe commerciale pour décider combien de mangas on va aller placer dans les librairies. Ça va être la communication, le community management, l'événementiel autour de nos licences et sur les différents événements qui existent dans le manga en France. Ça va être aussi le web marketing, la promotion sur le lieu de vente, la publicité. Donc c'est vraiment très très large et Cathy, tu te joins à moi pour dire qu'on ne s'ennuie pas.
Non, on ne s'ennuie pas. Et en fait, on peut dire qu'on est quand même présent à toutes les étapes de la vie du manga, au final. Mm-hmm. Avant sa naissance, en France, on va dire. Mm-hmm. Et après sa naissance, quand il arrive en librairie. Et puis tout le temps où il va être en librairie, continuer à l'accompagner pendant toute sa vie.
Bah oui, j'allais vous demander, parce que là, vous me surprenez beaucoup par la réponse, quand en fait vous rentriez en jeu dans la vie du manga, et visiblement c'est beaucoup, beaucoup plus en avant que ce que j'aurais pu penser, qui était effectivement que une fois que le manga est traduit, on va vouloir le vendre. Mais en fait, c'est bien avant ça. Vous travaillez aussi avec les éditeurs au Japon, alors?
C'est ça. En fait, on va travailler avec les éditeurs, surtout au sein de Pika, avec Mehdi, avec qui tu as déjà parlé précédemment, par exemple, qui en fait va choisir des titres et avec qui en fait on peut discuter déjà en amont. Est-ce que ce titre il est fait pour le marché français ou pas. Moi, je vais être aussi en appui sur, comme je disais tout à l'heure, comment convaincre les ayants droit japonais de nous confier leur licence. Donc on a déjà une stratégie à mettre en place avant même qu'on ait acquis le titre, parce qu'il faut les faire rêver, il faut leur montrer en fait qu'on va vraiment défendre le titre et l'auteur sur notre marché. Et donc on commence très très tôt à mettre les mains dedans.
Et combien de temps du coup ça dure en fait toute la vie de ce manga que vous allez suivre, parce que une fois qu'il est sur le marché, je pense que vous continuez un petit peu à les suivre encore. Faut les défendre justement.
Oui, bah tout à fait. Ben, en fait, on c'est des séries dont les tomes paraissent ben, des fois sur plusieurs années. Et Cathy pourra l'expliquer, mais effectivement, on accompagne les séries des fois très très tard, et ça va dépendre du succès d'un titre, par exemple.
Le meilleur exemple là qu'on a actuellement, c'est l'Attaque des Titans, pour lequel on va fêter les 10 ans de la série, de l'arrivée de la série en France l'année prochaine, où tous les ans, depuis 10 ans, on a des actions marketing pour accompagner la série, que ce soit au moment du lancement, où effectivement c'était un lancement événement, parce qu'on avait, c'était déjà une série événement au Japon, on avait l'animé qui était arrivé juste avant, qui avait vraiment soutenu ce lancement, et ensuite, d'année en année, la hype a continué à grandir, des nouveaux lecteurs qui ont été recrutés, on a dû avoir des nouvelles stratégies, proposer des nouvelles choses, des éditions limitées, des opérations commerciales avec des primes, des remises en avant magasin avec du display de sol, des affichages, toute la communication qu'on peut faire, et aussi, bien sûr, évidemment, toute la communication sur les réseaux sociaux qui s'accompagne à la fois par des posts visuels, mais aussi maintenant beaucoup avec de la vidéo.
On a tendance justement à ramener le marketing uniquement aux techniques de vente, quand on a dans l'idée commune qu'on peut avoir de ce métier-là, mais ça va un petit peu au-delà de ça, puisqu'il a pour but en fait de permettre au manga de rencontrer son public, le bon public, celui qui va l'apprécier. Et par quelle technique on peut passer pour s'assurer que tout ça se passe bien en fait?
Dans les techniques, donc on va d'abord mettre en place une stratégie. Donc nous, typiquement, on se réunit avec l'équipe. On regarde les titres qu'on a déjà. Enfin, en fait, on est capable de dire au Japon comment se porte le titre et quelles sont les ventes, sa popularité, est-ce qu'il y a un animé, etc. Et à partir de là, on se pose et on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait autour de ce titre. Et là, ça va être effectivement par les différentes techniques qui existent. Donc, ça va être la communication en allant parler à la presse, aux médias. Ça va être le community management. Donc, est-ce qu'on va mettre en place des animations sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va en parler lors d'un live Twitch, est-ce qu'on va aller faire de l'événementiel autour,
beaucoup de communication de communication en librairie, parce que c'est quand même là où on va trouver notre lectorat au final. Donc donc il faut bien qu'on voit nos livres en magasin pour qu'ils soient facilement vendables et vendus. Donc ça passe par à la fois les techniques de vente classiques dites de PLV, donc publicité sur le lieu de vente, qui sont assez vastes finalement, parce que ça regroupe à la fois tout ce qui va être prépublication, display, mais aussi les primes, vraiment tous les petits à côté en fait qu'on s'imagine pas, le petit marque-page et tout. En fait, on est derrière tout ça. Et aussi
c'est
en fait
de temps.
Et c'est beaucoup de temps
et beaucoup de créativité.
Et beaucoup de délais en fait, parce que on s'imagine pas, mais en fait tout ça, il faut tout faire valider au Japon, et selon les éditeurs, les délais de d'approbation ne sont pas du tout les mêmes, et ça peut être très compliqué, parce que on ne fait pas ce qu'on veut en fait, en vrai. On est très tributaire de ce qui existe au Japon en termes de visuel, on est très tributaire de ce que veulent les éditeurs, parce qu'on peut pas couper ce qu'on veut sur un visuel, on peut pas l'utiliser de la façon dont on voudrait. On peut pas couper une mèche, par exemple, de cheveux sur certains personnages, parce que ça dénature totalement le personnage pour certains éditeurs. Donc parfois c'est très ubuesque et très casse-tête, mais ça fait partie du challenge, et c'est assez plaisant, et c'est vrai que finalement on se dit que bosser dans le manga, ça pourrait être un petit peu redondant, on ferait tout le temps la même chose, mais comme en fait c'est des séries tellement différentes avec des thématiques tellement différentes, que finalement, c'est comme si tous les jours, on avait un nouveau métier, en fait. Mais c'est plutôt sympa.
Il faut essayer de se réinventer à chaque fois.
C'est ça. Après, faut regarder ce qui se fait de nouveau, en fait, un peu partout, que ce soit pour les primes. On essaye de regarder c'est quoi la hype du moment, le petit goodies dont tout le monde parle, que tout le monde vend dans les petites conventions, qui vont faire plaisir aux lecteurs. Parce que nous, il nous ferait plaisir. C'est ce qu'on veut, c'est faire plaisir au lecteur, lui donner ce dont il a envie. Et c'est aussi la communication marketing, c'est réfléchir à comment vendre notre produit vis-à-vis d'un lectorat qu'on connaît, qu'on cible par rapport à l'âge et par rapport à des typologies de clientèle, et trouver les bons mots pour lui parler à lui et pas parler à nous, parce que en fait nous on l'aime bien ce titre, mais concrètement c'est pas nous qui allons l'acheter, il faut aller chercher les
chercher le lecteur qui aimera ce manga, et c'est peut-être la grande difficulté du métier. Mais on découvre beaucoup dans cette série de podcasts, j'ai l'impression que finalement vous êtes effectivement beaucoup tributaire des ayants droit au Japon, qu'on fait pas ce qu'on veut avec un manga et qu'on aimerait bien, mais non, c'est pas possible. Du coup, est-ce que ça fait partie des spécificités de ce format manga en termes de marketing, justement la discussion permanente avec les ayants droit au Japon, ou peut-être d'autres choses particulières de ce format?
Alors, dans les choses particulières en termes marketing, moi je pense surtout en fait au public, et un petit peu ce que disait Cathy juste avant. On a un public de connaisseurs, c'est vraiment des lecteurs qui suivent ce qui se passe au Japon, mm-hmm. et des fois même ils en savent plus que nous, donc on est très challengés par ça. Oui donc on doit vraiment faire attention à ce qu'on choisit dans les primes, dans le produit en lui-même. On travaille vraiment sur des produits qui sont attendus par le public.
Parce que finalement, quand une grande licence arrive en France, la plupart des lecteurs et des lectrices, ils savaient déjà que cette licence-là, elle allait arriver à un moment.
Mm-hmm. Ben, c'est ça.
Qu'elle existe. Et du coup, c'est vrai qu'on est très challengé, parce que je vais donner en exemple Toilet Boo d'Anako Kun, qu'on a sorti en 2021. Où en fait la série existait déjà depuis un petit moment. Il y a l'animé qui était déjà sur Wakanim, et du coup on arrive avec la série avec un public en attente qui a vu l'animé, qui est très différent du manga, parce qu'il y a beaucoup de coupes dans l'animé de Toilet Boon qui n'existent pas dans le manga. Et du coup, ce qui était génial, c'est que on avait déjà les attentes du marché, on savait ce que les lecteurs voulaient sur cette série, on savait ce qu'ils aimaient dans les personnages. Et donc, on a vraiment marketé tout le produit, tout Toilet Boon, que ce soit les displays de comptoir, les displays en librairie, la communication, autour de tout ce qu'ils aimaient. Donc, on a fait une PLV avec les blancheurs qui clignotaient, des petites portes à ouvrir, le petit standee en acrylique à récupérer pour l'achat de tomes.
Donc, finalement, c'est peut-être aussi un avantage quand vos lecteurs, lectrices attendent des licences. Vous savez déjà quelles sont les attentes, en fait, de ce public-là.
C'est ça, mais en fait, parce qu'on les écoute aussi.
Oui, évidemment, sinon vous ne devineriez pas.
On est très à l'écoute, on lit beaucoup ce qui se dit sur les blogs, sur les réseaux sociaux, partout en fait.
Je vais reprendre l'exemple de Cathy avec la manière dont on avait pu travailler Anako Kun. Le but aussi, on est dans une industrie du divertissement, et le but c'est de faire plaisir aux gens et de prendre du plaisir, en fait, en prenant du plaisir dans ce qu'on fait, on en partage aussi avec les lecteurs, et c'est ça qui est beau, je pense, dans notre métier.
Ouais, quelque part, on est les premiers fans de nos mangas.
Heureusement.
C'est très vrai, c'est très vrai.
Et puis, il y a la passion du manga.
C'est exactement ça.
Il y a une petite différence. On en parle en filigrane, et j'aimerais bien qu'on éclaircisse un peu la différence peut-être entre le marketing et la communication, parce qu'on va parler de communication dans ce podcast plus tard, et je suis pas sûre que nos auditeurs et auditrices sachent exactement où est-ce qu'on met la limite entre les deux.
Oui, c'est vrai que souvent, en fait, ça va aussi dépendre d'une équipe, d'une maison d'édition à une autre. Chez nous, la communication est intégrée, en fait, dans l'équipe marketing. Mmh. Et après, quand on parle de communication, ça, c'est vraiment comme ce que je disais un peu avant, ça va être vraiment s'adresser à la presse, aux journalistes, communiquer aussi auprès des fans via les réseaux sociaux. Donc, c'est plus les messages qu'on porte, on va dire, à destination du public ou des médias. Tandis que le marketing, effectivement, ça va être des choses un petit peu plus concrètes, en librairie, en technique de vente, comme tu pouvais dire tout à l'heure, en prime, en objet, pour aider à vendre. Donc,
Même en achat publicitaire aussi. Mmh. Parce que du coup, c'est vrai que souvent, ce qu'on peut dire, c'est que là où s'arrête la communication presque, c'est là où commence le moment où on va commencer à payer un peu, même si avec les influenceurs, ça il y a des barrières qui commencent à être un petit peu à tomber, mais Mais c'est vrai que voilà, si on a une campagne de communication insert ou une campagne de communication comme ce qu'on a pu faire sur Blue Lock sur les tramways à Lille et à Nantes, c'est de la communication aussi vers le public, mais c'est évidemment là, ça va être des techniques marketing et il faut qu'on négocie.
Une campagne qui avait fait du bruit, on s'en rappelle, la campagne Blue Lock sur les trams.
Très bonne. Et chouette.
Du coup, on va pouvoir parler un petit peu des collections Nobby Nobby et Pika Edition, puisque ce sont deux girons que vous avez chez vous. Quelles sont les différences dans les manières justement d'appréhender la façon de vendre ces mangas ou ces ouvrages? Est-ce qu'il y a des sensibilités différentes en marketing?
Bah, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, d'avoir ces deux labels, déjà, ça nous permet de porter des messages différents en fait selon chaque label. Donc, si je commence par Nobby Nobby, c'est vrai qu'on est sur un public cible qui est beaucoup plus jeune. Où, en fait, les mangas Nobby Nobby ont des tons plus bienveillants. On est sur un contenu safe, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de violence, pas de sexe. On est aussi sur un contenu feel good, donc qui permet, en fait, c'est des histoires qui font du bien. Ça permet en fait vraiment de mettre les mangas Nobby Nobby dans les mains de tout le monde. N'importe quel public, du plus jeune au plus âgé, peut venir s'identifier aux histoires, mais sans être heurté ou choqué par des scènes. Et c'est vraiment le label qui nous permet voilà de dire ben ça peut être aussi pour les enfants le manga, parce que on va dire que le manga à une époque a pu avoir une image de violence, de propos choquants, de personnages féminins dénudés, etc. Et Nobby Nobby, c'est vraiment justement ce qui va nous permettre de dire bon bah voilà, le manga déjà c'est pas que ça. Et quand vous prenez un manga Nobby Nobby, vous avez aucun risque d'avoir un contenu qui pourrait déranger. Après, en parallèle, sur Pika, bah, on se laisse beaucoup plus de liberté. La ligne éditoriale est plus large, les thématiques plus libres. Et là, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la passion du manga et on va proposer des titres qui vont de l'attaque des titans à du shoujo comme Ton visage au clair de lune. Donc, c'est beaucoup plus large.
Avant que le groupe Pika ne rachète Nobby Nobby, on avait fait des incursions sur Pika, sur des titres plus jeunesse, mais on avait beaucoup de mal à rentrer, en fait, avoir une vraie légitimité avec notre label Pika sur la jeunesse, parce que bah, les gens avaient cet a priori, bah, Pika, et ils ont quand même l'attaque des titans, ils ont Step Up Love Story à l'époque. C'est pas facile de dire à un parent, vas-y, tu peux acheter ça, c'est safe, tu peux y aller les yeux fermés. C'était un peu compliqué. Et donc, y a ça. Et ensuite, bah, c'est vrai que sur les deux labels, après, somme toute... On les traite différemment parce que les titres sont différents aussi, donc forcément le travail est différent parce que chaque titre de toute façon est traité de façon différente de par sa thématique.
Donc finalement ça fait un peu partie du travail aussi de entre guillemets redorer l'image de Pika, c'est-à-dire comme tu disais Step Up Love Story, excellent exemple je pense. C'est vrai que ça c'est pas du tout à mettre entre toutes les mains, hein, et que Pika fait de tout.
Mais après ça fait partie de l'histoire du manga, tu vois, c'est on va pas non plus renier notre historique. Mm-hmm. Comme on a fait Attache-moi, il y a des choses qu'on garde encore en numérique parce qu'effectivement, t'as ces titres-là qui sont un petit peu plus sexy, un peu particulier. On a eu un moment où on avait du mal à, on n'avait pas des ventes papier faramineuses, et la solution de proposer quand même en numérique pour que le lectorat puisse continuer à profiter de ces titres, ça a été une bonne solution. Et c'est aussi vrai que ce genre de titre, t'as peut-être moins de facilité à aller en librairie pour dire, je voudrais bien le dernier Attache-moi. Donc, mais c'est rigolo, c'est sympa de voir l'évolution des deux labels et des deux maisons et de voir qu'en fait on a un peu le senpai et le kohai et c'est un peu cool quoi.
Oui, vas-y.
Non, pardon, c'était juste pour redire comme Cathy disait. Après, on va vraiment accompagner chaque titre différemment. On le disait un petit peu en début d'interview. On essaye de se réinventer à chaque fois. Donc, effectivement, il y a une cible différente entre les deux labels, mais vraiment, c'est ce qui va compter. C'est derrière chaque manga, qu'est-ce qu'on va proposer en termes de marketing. Et c'est ça qui est fun.
C'est partie du fun du boulot.
C'est toujours chercher, trouver l'angle d'attaque qui va vraiment parler au public français. Parce qu'on ne peut pas non plus se dire on va aussi un peu copier ce que font les Japonais, parce qu'on ne peut pas toujours se permettre, parce qu'ils n'ont pas du tout la même, les mêmes approches que nous sur certaines séries. Et c'est bien d'avoir, de profiter aussi de certaines spécificités françaises. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Et c'est bien. C'est cool que le manga maintenant fasse vraiment partie du paysage de la littérature en France, on va dire.
Oh, elle a dit littérature pour du manga.
Du coup, on arrive au milieu de cet épisode, on arrive à la pique à question. Quel serait, selon vous, le manga qui mérite un petit peu plus d'amour? Qu'est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Donner des raisons de le lire, par exemple.
Alors, moi, comme manga, le premier qui me vient à l'esprit, je l'ai lu récemment. Et je l'ai lu parce qu'en fait, il a été réclamé beaucoup par les fans pour être réimprimé. Donc, oui, ça sert. Réclamez-nous des réimpressions. On vous écoute. Là, il s'agit de Happiness. Donc, en gros, est-ce que tu vois ce que c'est, Amandine? Le manga Happiness, non? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, une nuit, se fait attaquer par une jeune fille vampire. Et en fait, il va voir sa routine quotidienne se transformer quand il va se rendre compte qu'il est devenu lui-même un vampire.
D'accord.
Ouais, c'est un peu sombre, mais franchement, il y a une dizaine de tomes. C'est une histoire, en fait, une fois qu'on se lance dedans, on peut vraiment pas le lâcher.
D'accord.
Et c'est très mélancolique, mais aussi très mystérieux. Et vraiment, j'ai commencé à le lire... un week-end et je l'ai pas lâché vraiment et voilà, donc merci à la communauté de nous l'avoir réclamé et de m'avoir inspiré cette lecture.
Les vampires, c'est ma came, donc il y a carrément possibilité.
Ouais, non, et puis, franchement, c'est assez beau, en plus le dessin un petit peu sanglant, mais c'est le genre de titre que j'aime.
Mais dans quel genre on est exactement, du coup? Ce serait plutôt seinen?
Ouais, plutôt seinen.
Il est seinen, ouais.
Et du coup, c'est en 10 tomes. Hein, je te reviens en naine.
Oui.
C'est conclu en 10 tomes. Et c'est vrai que c'est une super série et qu'on nous a beaucoup réclamé en réimpression, puisque elle avait un peu pâti du Covid et des problèmes de réimpression qu'on avait subis. Et donc là, maintenant que c'est un peu rétabli, on va pouvoir les réimprimer.
Donc, à ton tour, Cathy, quel est ton manga?
Alors, moi, c'est vrai que j'en ai lu beaucoup. Donc, au bout d'un moment, à mon âge, il y a des séries où on commence à en avoir un petit peu assez. Donc, c'est vrai que les Shonen Neketsu, j'en ai lu beaucoup. Hein, donc, donc, je passe à un peu autre chose. Et moi, ma série, une de mes séries préférées, c'est Au Grand Air, qui est chez Nobi Nobi. Et c'est une série qui invite vraiment au voyage. Donc, on se retrouve dans un... Alors, je ne sais plus si c'est un collège ou un lycée, parce que j'ai toujours un doute par rapport à l'âge des personnages. Et une jeune fille découvre le club du lycée, qui est un club de camping. Mais dans ce club, il y a très peu de gens. Hein. Il n'y a qu'une seule jeune fille qui s'appelle Nadeshiko. Et donc, d'autres jeunes filles vont arriver pour se dire « Ah bah tiens, on va faire du camping ». Et donc, elles vont acquérir au fur et à mesure des skills, du matériel, parce que bah, le matériel de camping, c'est quand même du matériel pas donné, pas simple. Et ce qui est super avec ce titre, c'est que à la fois, on découvre le camping au Japon, mais aussi, on découvre des super spots, parce qu'elles font le tour du Japon, soit en voiture avec le prof qui coordonne le club de camping, soit en scooter, parce que elles ont un scooter et elles peuvent aller faire du camping en solo ou en duo grâce à ce scooter. Et on découvre plein de super spots au Japon. Elles en profitent pour parler un peu de la nourriture locale.
Ah, évidemment.
Voire de l'alcool local, parce que bon, y a la prof qui coordonne le club de camping. Et c'est très intéressant. Elles vont dans les onsen, elles vont dans des sources chaudes naturelles. Enfin, c'est vraiment, ça donne hyper envie de voyager au Japon, quoi. De prendre son sac à dos et sa fourchette.
Et de faire du camping au Japon.
Alors que toi, tu détestes ça en France. Tu vois, c'est bizarre, hein, parce que franchement, vraiment, je déteste ça en France, mais j'ai très envie d'aller en faire au Japon. Et ouais, et c'est vraiment, enfin, c'est joli, c'est feel good, c'est hyper bien, c'est bien pensant, et elles sont toutes, tous les petits personnages sont tout mignons, elles s'entraident. Enfin, c'est super. Voilà, il faut le lire. Bon, c'est en cours. Et ouais, ouais. Elle est vraiment sous-cotée et je suis un peu triste.
Alors, bah, on mettra évidemment toutes les informations dans la description du podcast. Vous n'aurez qu'à cliquer pour aller voir Au Grand Air, c'est ça ?
C'est ça, c'est
Au
ça.
Grand Air. Et Happiness. Bah, merci à vous. On va pouvoir passer à la suite. Aujourd'hui, le public du manga, ce sont les lecteurs et lectrices de la première heure, mais c'est aussi un public plus jeune qui découvre ce format-là qu'ils ne connaissaient pas avant. Est-ce que, du coup, c'est un petit peu difficile, justement, d'avoir ces publics différents? Est-ce que ça implique des techniques, entre guillemets, de marketing différentes aussi pour les toucher? Est-ce que c'est une évolution aussi qui finalement, a impacté votre travail ces dernières années?
Alors ouais, il y a pas mal d'évolutions, et notamment donc comme tu le disais un peu avec l'explosion du manga où on est allé toucher des nouvelles personnes. Et en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a deux tendances qui se dessinent. Vu qu'on touche plus de personnes, et ben on peut se permettre de faire un marketing plus de masse qu'avant. Donc voilà, on rhabille des trams, on arrive sur les écrans du Citadium, on va pouvoir voilà faire des campagnes d'affichage beaucoup plus massives qu'avant, parce qu'en fait avant le manga était et c'était moins connu, c'était moins lu, et ce genre de campagne n'avait pas forcément de nécessité par rapport à aujourd'hui où vraiment bah vu que de plus en plus de monde en lit, ça fait plus sens d'aller voilà communiquer sur des supports plus vastes et plus dans toute la France en affichage, etc. Et après, de l'autre côté, et ça, on va dire que c'est une tendance qui arrive, mais avec les réseaux sociaux, on est plus proche des lecteurs. Donc là, on va faire du marketing plus de masse, mais on va faire aussi du marketing plus proche de ce qu'on va appeler du CRM, du Customer Relationship Management, quel nom magnifique, quelle technique magnifique, où en fait on va vraiment être plus à l'écoute, être plus proche, on a moins la distance qui pouvait exister avant où les réseaux sociaux étaient moins prégnants, moins forts, et puis avant quand ils n'existaient pas du tout, parce qu'avant c'est vrai que le livre il était créé par l'éditeur, il arrivait dans les mains du lecteur et puis c'est tout, on n'avait pas de lien avec les lecteurs. Alors que maintenant avec les réseaux sociaux, on vient nous dire oui bon bah là la fab elle aurait pu être mieux ou là il y a une faute dans ce manga ou non, ça va être ce genre de choses et nous tout l'intérêt c'est de bah d'aller écouter ce qui se dit. Récemment il y a eu un mouvement qui est le mouvement Libérer le Shoujo, et qui, nous, en interne, en marketing, nous fait réfléchir à comment aller satisfaire, certains lectorats qui peuvent se sentir oubliés. Et on peut pas en dire plus pour l'instant, mais ça mouline et on prévoit de faire arriver de belles choses bientôt dans ce sens. Donc voilà pour un peu les changements et les nouvelles tendances qui peuvent apparaître dans notre métier du marketing.
Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que il y a un renouvellement de la population lectrice de manga. On va avoir des personnes qui lisent du manga depuis la première heure, depuis le début du manga en France. Et on voit que d'année en année, on continue à recruter sur beaucoup de séries, et notamment évidemment les séries phares qui sont un peu les best-sellers du manga. Donc notamment GTO, Fairy Tail, L'Attaque des Titans, où finalement le tome 1 continue à beaucoup se vendre. Et on voit que vraiment il y a cette phase de recrutement d'un lectorat plus jeune qui arrive au manga et qui va aller voir son libraire, qui va demander des conseils peut-être à des personnes plus adultes, que ce soit en bibliothèque, en librairie, ou certains instituteurs ou professeurs qui considèrent que le manga reste quand même une lecture à part entière. Et c'est vrai que du coup, finalement, on voit ce public qui se renouvelle constamment. Et à la fois, on a ce côté mass marketing où effectivement les best-sellers continuent à se vendre. Et on a l'apparition d'un public un peu plus niche, un peu plus connaisseur, et où on va pouvoir se permettre de vendre des choses qu'au tout début de manga, quand moi je suis arrivée chez Packer, on n'aurait peut-être pas vendu. Typiquement, bah, Happiness, c'est peut-être un petit peu, tu vois, c'est le type de titre où, bah, on aurait peut-être pas, on y serait peut-être pas allé parce que c'est un peu niche, ou même Au Grand Air, typiquement, c'est pas, on se dit, bah, ouais, une série sur le camping, bon, bah, voilà, enfin, c'est un peu compliqué. Alors que là, bah, en fait, on va avoir des clients, des lecteurs qui vont aller vers ces séries parce que elles sont un peu atypiques, elles correspondent à leurs attentes du moment et, c'est des jeunes adultes ou des adultes un petit peu plus âgés qui vont avoir la trentaine, la quarantaine et qui recherchent ce type de titre, peut-être avec des sujets plus plus pointus, moins, bah voilà, c'est, on a peut-être pas plus envie à un certain âge de lire du shonen neketsu, on a envie d'autre chose et ça fait partie aussi de l'évolution du lectorat et c'est très intéressant. Donc c'est vrai que là sur la communication, enfin sur le marketing, on a deux sons de cloche et on a deux façons différentes de travailler, mais c'est hyper intéressant pour nous.
Quelque chose qu'on avait parlé dans les épisodes précédents aussi, c'est qu'effectivement, quand il y a 10 ans, 15 ans, le manga, c'était uniquement niche. C'était une toute petite frange des lecteurs et des lectrices qui s'y intéressaient. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment, je sais pas le terme, mais...
Grand public.
Ouais, c'est devenu ouais, complètement c'est grand public et tout le monde sait ce que c'est qu'un manga. Quand il y a 15 ans, il fallait expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'un manga, quoi.
C'est ça. Et ça change pas mal aussi le fait que, bah, avant, c'était peut-être nous qui allions vers l'extérieur pour faire connaître, etc. Maintenant, c'est les gens qui viennent nous chercher pour venir parler des séries, pour venir faire des partenariats, pour venir sur des événements, etc. Et ouais. Ça, c'est pas désagréable.
Vous pensez que ça va encore évoluer dans les années à venir ou qu'on arrive à une certaine maturité?
Bonne question.
Moi, je pense que c'est comme tous les marchés, tu vois, ça évolue et ce qui est bien, c'est que, enfin, tu vois, c'est le renouvellement des populations et donc, du coup, les attentes d'une génération à une autre sont différentes. Et donc, du coup, forcément, nous, on aura des façons différentes de communiquer à chacune de ces générations-là.
Et puis après, on est vraiment sur une tendance qui va vers plus de mangas, vers plus de licences. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'animés qui arrivent et que ça devient de plus en plus grand public.
Netflix.
Même Netflix, même Disney, même...
Oui, même Disney. Ah
ouais. Ouais. Tout le monde s'y met. Donc, pour l'instant, nous, on est dans une tendance qui est plutôt positive et ça fait plaisir à voir. Et je pense que pour tous les fans de manga, ça fait plaisir aussi de voir que justement quelque chose qui leur plaisait, qui était un peu niche et regardé peut-être des fois d'un œil un peu supérieur et en fait vraiment devenu une... quelque chose de normal dans notre paysage culturel ça fait plaisir autant aux gens qui travaillent dedans que je pense qu'aux collecteurs eux-mêmes.
C'est vrai que moi j'ai une petite anecdote comme ça où comme ça fait très longtemps que j'ai lu du manga et que j'ai lu du manga au tout début vraiment de l'arrivée en France. Moi, je me souviens qu'à la fac, entre deux cours en amphi, je sortais un manga de mon cartable et je lisais dans l'amphi et les gens me regardaient comme si j'étais une bête curieuse parce que déjà, j'étais une fille, qu'en plus, je lisais du manga, que je lisais à l'envers et que ça avait l'air quand même vachement tordu, ton truc. Et maintenant, en fait, on voit les gens qui lisent dans le métro, dans le tramway, dans la rue et c'est normal. Et en fait, on fait plus de réflexion et les enfants, ils en lisent dans les CDI, ils en ont. Il y en a dans les bibliothèques. Les bibliothécaires viennent nous chercher pour avoir des inspirations, pour avoir des affichages dans leur bibliothèque. C'est hyper génial. Moi, je suis hyper contente. Moi, mon fils, il lit du manga aussi. Il a 10 ans et il lit du manga.
À voir donc dans les prochaines années pour les évolutions. Vous en parliez tout à l'heure, mais parmi les évolutions récentes, le format vidéo est de plus en plus utilisé dans le marketing de manga. Alors, on aurait pu penser que c'était antinomique, des images imprimées, mais finalement, beaucoup de pubs, notamment, je pense, je crois, à Blue Lock aussi. Vous avez fait une petite campagne d'affichage vidéo. Est-ce que... comment s'est passé, en fait, ce virage dans le marketing? Quand est-ce que vous l'avez vu venir et comment ça a évolué? Comment vous avez fait pour vous adapter?
En fait, en vrai, le format vidéo, il existe depuis longtemps. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, on l'utilisait beaucoup sur des chaînes genre G1, Game One, des chaînes de...
De niche déjà.
De niche déjà. et on faisait des trailers avec de la voix. On castait des gens. Alors souvent c'était, il y en avait pas beaucoup des voix.
Le meilleur shonen.
Ouais, c'est le meilleur shonen. L'attaque des Titans. Donc moi j'ai doublé avec la voix de Kratos l'attaque des Titans. C'était génial. Et sinon on utilisait le mec qui faisait les annonces sur G1, tu vois, il faisait aussi les castes de nos voix sur les trailers. Mm-hmm. Et puis après il y a eu l'évolution où effectivement les chaînes tu regardais en replay, donc il y avait plus de pub. Et puis d'un autre côté, les réseaux sociaux se sont mis à faire de plus en plus de vidéos, à permettre d'avoir ce contenu vidéo, et donc du coup, on a amorcé ce virage au fur et à mesure.
En fait, c'est effectivement ça, c'est un virage qui est apparu avec les réseaux sociaux et qui fait que nous, on s'est adapté. Et puis hors réseaux sociaux, on voit aussi que maintenant dans la rue, les écrans, comme tu disais, Blue Lock tout à l'heure, les écrans publicitaires, c'est aussi de la vidéo. C'est des formats qui sont plus attractifs pour l'œil, qui donnent envie de se pencher sur la publicité et qui sont plus sympas, qui permettent de raconter quelque chose. Et c'est vrai que c'est plus sympa que des images statiques. Puis après, il y a des développements de plateformes comme TikTok où on va pouvoir développer des nouveaux formats pour vraiment venir parler à nos lecteurs. Et ça, du coup, c'est effectivement, c'est des formats que nous on essaye de développer, que ce soit en partenariat avec des talents ou des influenceurs qui parlent de manga, parce que c'est souvent les plus doués pour le faire, on va dire, ou que ce soit nous en interne à développer des animations autour de nos licences et ce genre de choses pour avoir des, on va dire, des publicités sympas à regarder et pas des choses où on se dit « Ah, mais ça m'intéresse pas, je veux pas le voir ». Non, le but, encore une fois, on est dans le divertissement et c'est de faire des choses fun et des choses agréables à lire, à regarder.
C'est sur ce format un peu qu'on pourrait comparer, c'est souvent un format qu'on appelle « snacking ». Donc c'est le format un petit peu rapide qu'on regarde un petit peu… dans le métro, sans son, donc faut trouver quelque chose d'attractif visuellement parlant. Donc c'est des tout petits formats vidéo qu'on va regarder sur Insta, sur Twitter. Et du coup nous on a vraiment retravaillé ça avec notamment le teasing de Ta Copie, le péché originel de Ta Copie qu'on sort en janvier, où on a fait un petit teasing vidéo avec des images un petit peu fortes d'atmosphère du manga. Et sur Blue Lock, là, pour le tome 11, pour montrer en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de l'édition limitée, pour avoir un petit truc un petit peu plus attractif, donc pour donner un maximum envie d'aller chercher la série en librairie ou le tome limité qui arrive, et de donner vraiment quelque chose de visuellement parlant, alors que c'est vrai que quand c'est statique, c'est pas forcément évident d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur d'une édition limitée, quoi.
J'ai l'impression que c'est les tendances qui vont grandement vers le public, vers les lecteurs et vers les lectrices pour communiquer plus facilement avec eux.
Ouais, c'est ça. C'est effectivement Twitch, ce qui est bien, c'est d'être en direct et que les lecteurs puissent nous poser les questions pendant qu'on présente les mangas, etc. Et en fait, ça permet vraiment d'instaurer un dialogue, qu'on soit pas juste nous en train de dire venez lire ça c'est trop bien, ou découvrez la nouvelle série, etc. Là, il y a un échange qui se crée, et ce qui fait que pour les lecteurs, c'est aussi plus agréable de se sentir écouté et de pas être pris seulement pour des consommateurs, mais pour des personnes à part entière qui ont des choses à raconter aussi sur les licences dont ils sont fans. Et ça, c'est ça aussi qui est intéressant dans le marketing aujourd'hui, et qui est permis grâce aux réseaux sociaux.
Il y a un petit côté de proximité en fait avec le lecteur qui est vachement intéressant, parce que c'est clair qu'enfin moi au début, quand je suis arrivée chez Pika, il y avait pas ça, les gens ils nous écrivaient des lettres papier, quoi. C'était pas pareil, et là c'est vraiment intéressant que ce soit les DM ou les messages privés et sur le Twitch, le chat, Alors, on peut pas poser toutes les questions pendant le Twitch, pendant le live Twitch, parce que c'est pas possible. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, c'est vrai que nous, sur le support chat derrière, on va répondre à certaines questions en direct pour pas frustrer les personnes qui sont là et qui posent des questions dont qu'on ne peut pas poser pendant le live parce que concrètement on n'a pas le temps de poser toutes les questions, mais on essaye de répondre à un maximum de questions et si malheureusement on ne peut pas répondre à la question, ils savent très bien que ils peuvent nous envoyer des mails et que on répond à tout hein, en fait.
Donc on a parlé des nouvelles habitudes de lecture qui sont références au numérique. Est-ce qu'il y aurait d'autres tendances qui se dessinent parmi les habitudes de lecture ?
Oui, il y a une nouvelle tendance qu'on a vue apparaître avec le boom du manga, qui est un peu une nouvelle ère pour le manga français, qui aujourd'hui n'est plus du tout considéré comme un sous-genre comme ça a pu l'être à une époque, mais un marché à part entière où des séries françaises comme Dreamland par exemple bénéficient même d'une adaptation en animé. Et donc Dreamland qui est chez nous, qui est chez Pika, par l'auteur Renaud Lemaire, et qui est la série française la plus longue avec 21 tomes. Et vraiment qui aujourd'hui possède son public, et ça c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, mais voilà, le manga français se creuse vraiment une place parmi toutes les lectures manga les lectures manga du public français.
Mais c'est vrai que c'est une vraie évolution parce que Renaud, il est arrivé avec sa série Dreamland. À l'époque, on avait un magazine de prépublication de manga chez Pika, et donc il y avait eu un appel à création de manga français, et le pitch c'est qu'il fallait que la série se passe en France. Donc Renaud, il a envoyé sa série, donc qui se passe effectivement à Montpellier, hein, donc super ville et tout, mais il a été malin parce qu'en fait pour pouvoir parler de ce qu'il aime lui et de la fantasy, il a fait en sorte que ses personnages ils aillent dans le monde des rêves, dans le monde de Dreamland, et là le mec il a des pouvoirs magiques, il combat il a le feu comme allié, l'autre personnage il a les poissons comme allié. Donc finalement en fait il a réussi à partir d'un élément qui aurait pu être un petit peu embêtant de devoir positionner son manga en France, il a trouvé une solution en faisant en sorte que ses personnages évoluent dans le monde des rêves. Et c'est vrai qu'en 2006, quand on a sorti le premier tome, donc on était à Angoulême, on avait un petit stand, et Renaud, il était là avec ses petits mangas en train de dédicacer, et tous les gamins qui passaient, qui faisaient « C'est toi l'auteur de Naruto ?» Et tu sais faire Dragon Ball et tu peux me faire Sangoku. Et lui, il était tellement gentil qu'il faisait tout en fait. Il faisait tout à tout le monde. Il dessinait des Sangoku, des Naruto sur son manga. Et maintenant, nous, en fait, les gens, ils lui demandent ses personnages à lui. Il parle avec lui. Il lui demande c'est quoi le prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer, lui, qu'est-ce qui va devenir, c'est comment la fin. Et voilà. Et c'est génial parce que, enfin, il le mérite tellement que, enfin, c'est quelqu'un de tellement formidable que c'est génial de voir que une telle évolution et de voir que le marché a réussi à absorber ça et en faire. Enfin, maintenant le manga français qu'on a appelé Manfra pendant tellement longtemps fait partie du paysage du manga à titre à part entière. Et ça, c'est beau.
En parlant de tendance, la grosse tendance, je pense, c'est le numérique, c'est les lectures numériques, hein, donc en ligne. Et c'est devenu finalement une nouvelle habitude des lecteurs et lectrices de manga. Comment vous appréhendez ce nouveau public ? Est-ce que c'est encore différent de ces grandes tendances qu'on a évoquées là au début de l'entretien ?
Pour nous, c'est pas forcément un nouveau public, le public qui lit en numérique. On va dire que c'est un public qui a toujours existé, qui lit souvent donc de manière illégale dans un premier temps. Et c'est pourquoi, en fait, comme je pouvais le dire avant, on développe le Simultrad et Pika a été un des premiers éditeurs à le proposer. Et notamment sur des séries comme L'Attaque des Titans ou encore Eden Zero, où vraiment on a proposé les chapitres en simultané avec le Japon, pour plus qu'il y ait d'excuses pour aller consommer illégalement les chapitres, parce que c'est vrai que les communautés qui lisent ça de manière illégale ont l'argument du fait que c'est pas encore arrivé en France et qu'ils souhaitent le découvrir le plus tôt possible. Voilà, donc là nous on fait le travail du Simultrad pour leur dire voilà, on a une possibilité de lire légalement en même temps que le Japon sur les plateformes numériques. Donc pour nous c'est un seul et même public qui achète aussi des mangas. En fait ils vont juste faire le choix de parfois commencer par lire en numérique pour ensuite passer au papier. Et voilà, c'est il y a aussi un nouveau public, on va dire, qui peut arriver, qui lit du webtoon. Et là, pour répondre à cette sorte de concurrence en fait qui commence à exister, on va venir toucher ce nouveau public pour le coup en apportant nos titres sur les mêmes plateformes que là où il y a du webtoon donc, ou du smarttoon comme sur Picoma. Et donc là, par exemple, sur la plateforme Picoma, on a des mangas qui sont découpés en épisodes, qu'on va pouvoir lire en wait until free. Donc c'est-à-dire que soit on attend et on lit gratuitement, soit on doit payer pour débloquer les épisodes. Donc voilà. Donc nous, on essaye vraiment de répondre à ces nouvelles tendances de consommation en proposant voilà des alternatives. À tout ce qui est lecture illégale.
On arrive du coup à la fin de cette interview, de ce Pika Podcast. Merci à vous deux en tout cas de vous être prêtés au jeu, d'avoir répondu aux questions. On a encore appris plein de choses aujourd'hui.
Merci, c'était merci un plaisir d'y répondre.
Et puis on va vous laisser du coup sur cette fin d'épisode. On se retrouve évidemment le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur vos applications de podcast préférées, mais surtout à poser vos questions en commentaire ou sur les réseaux de Pika Edition. On y répondra si nécessaire dans le prochain épisode. Avec grand plaisir, prenez soin de vous et à bientôt dans le Pika Podcast.